Star, livre 1. Prise de possession. Au-delà des orbites d'Uranus et de Neptune, plus haut que les espaces du ciel où brille Sirius, menacé par l'épée d'Orion, portez vos regards par la voûte étoilée sur la ligne qui va de la polaire vers Andromède. Transportez votre imagination à des distances supérieures à plusieurs millions de fois la distance de Sirius au Soleil, égales à un nombre de fois illimité, presque infini, la distance du Soleil à la Terre. Et cette parcelle de l'immensité des cieux entrevue par votre esprit, allez plus loin, allez encore, montez, montez toujours. Peut-être alors pourrez-vous atteindre par la pensée, dans les profondeurs de la constellation de Cassiopée, un point perceptible au télescope dans les nuits sereines. Ce point, cet atome de lumière, c'est l'étoile de cette constellation que les astronomes désignent par la lettre Psi et que, là-haut, les êtres qui pensent et parlent nomment Star. 2. Au milieu de cette voûte d'étoiles, dans cette mer de feu, qui semblent autant de flambeaux destinés à éclairer nos regards s'enfonçant dans les champs de l'infini, Star n'est qu'une étincelle, assez puissante encore pour scintiller jusqu'à nous son filet de lumière. Mais là-haut, dans le vaste tourbillon où elle resplendit et se déroule, cette faible lueur est un harmonieux système de globes et de soleils dont le moindre égale le nôtre en grosseur et en clarté. 3. C'est vers ce point de l'espace que j'ai dirigé mes esprits. Et, tout pénétré de la lecture et de l'étude de mes livres stariens, plus rapide que la lumière, j'ai traversé les cieux. Rien de terrestre n'occupe plus ma pensée. Je me crois, je suis réellement sur un globe dans le tourbillon de Star. Effrayé d'abord de l'audace de mon projet et du vide immense, de l'isolement sans limite qui peut-être m'attend, j'y cherche avec inquiétude des traces du passage d'êtres intelligents et sociables. Mais, rassuré bientôt par la certitude acquise qu'une telle nature, que cet univers somptueux ne saurait être ni rationnel ni complet s'il n'était habité par des individus capables d'apprécier et de sentir ses poétiques beautés, je me laisse aller avec ravissement à l'espoir d'admirer et de vivre, en esprit au moins, sur cette sphère merveilleuse. 4. C'en est fait. D'un seul bond, vous avez pénétré avec moi dans ce nouvel univers. Cependant, si, dans ce voyage éthérien que nous venons d'accomplir à travers l'océan de l'incommensurable espace, notre pensée, rasant dans son vol les étoiles semées sur sa route comme autant d'îles lumineuses, avait pu s'arrêter un moment sur un soleil voisin de Star, un fait étrange l'eût frappé d'abord. Dans ces millions de mondes que la nuit nous montre suspendus aux divers étages du ciel, le système planétaire de Star lui fut apparu comme une gracieuse pléiade d'étoiles de couleurs variées. Et lui eut désigné de loin les globes dont l'exploration devait surtout la séduire et la fixer. 5. Mais nous sommes descendus sur une sphère dans ce système de globes. Nous sommes sur une terre échauffée par ces soleils. Leur chaleur est pénétrante et ineffable, et leur lumière suave autant que nuancée. Aussi, nous nous promettons d'observer avec volupté, car ici, le jour et la nuit même ont une magnificence inconnue à nos yeux. La contrée où nous avons pris pied est féconde, riche et couverte d'une végétation serrée, vigoureuse, exubérante. Sur la terre, des fleurs aux teintes vives s'étalent de tous côtés. Et c'est sur cette nature éblouissante que viennent se reposer les yeux quand ils sont forcés, quoique à regret, de se détacher des cieux, où quatre soleils de grandeur et de coloration diverses, quatre fleurs de lumière céleste, émaillent l'azur et éclatent à différents points de l'horizon. 6. Que ne puis-je emprunter les expressions imagées et retentissantes de la langue starienne pour décrire ce ciel embrasé par ces astres, comme il l'est dans nos fêtes, quand s'éparpillent dans les airs légers fulgurants des pièces d'artifice, avec cette différence que, là, chaque étincelle est tout un monde de feu. 7. Le disque le plus grand, le pivot central, le véritable soleil de ce groupe planétaire, se nomme Ruliel. Son orbe immense, plus blanc que le sillon que trace la foudre, rayonne d'une lumière si vivace et si diffusible que les nuages ne sauraient le masquer entièrement, et que sa présence sur l'horizon atténue l'éclat des trois autres soleils. À quelque distance de Ruliel se montre en ce moment Altéter. Voyez figure A, dont la surface et l'auréole sont d'un vert transparent. Altéter est un joli soleil vert qui accompagne souvent Ruliel. Il le précède à son lever comme une douce et splendide aurore, et déverse encore quelque temps ses tendres rayons à la terre, alors que le grand astre a englouti son vaste disque dans les limbes brumeux de l'Occident. Vers l'Orient se lève aussi Urias, figure A. Le soleil rouge flamboyant, dont la lumière, corrigée par les feux de Ruliel, jette de ce côté un réseau de rayons d'un rose pâle qui se colore et rougit vers l'extrême horizon. Urias est le soleil le plus voisin de la Terre, appelé Star, dont nous verrons plus tard qu'il est un des satellites. Enfin, nous nous hâtons d'admirer le dernier astre lumineux de ce magnifique firmament, car Éragror, le soleil au disque d'un bleu pur, incline déjà vers le couchant et baigne ce pan du ciel de sa lumière douce et mélancolique. 8. Abaissons maintenant nos regards vers cette terre que les feux de ces astres inondent des mille reflets, des mille nuances, d'une lumière blanche ou colorée. Un autre spectacle nous y attend. Spectacle déjà prodigieux et sublime dans son ensemble, mais encore admirablement curieux dans ses détails. 9. De vastes forêts sont devant nous. Quelques oiseaux qui voltigent dans l'air nous révèlent les premiers l'existence d'êtres animés. La vie et le mouvement sont déjà à nos côtés. Nous ne sommes plus seuls. Mais nous avons besoin, avant tout, de trouver des êtres pensants. Et une avidité curieuse nous fait courir irrésistiblement à la recherche de l'homme. Car quel est-il, l'être humain de cette sphère? Quelle forme, quel aspect, quelle intelligence va-t-il découvrir à nos regards? Et notre imagination, voyageant avec nous, l'habillait déjà de facultés et d'organes monstrueux. 10. Nous avançons, étonné des variations énormes que présente la végétation de cette planète. En effet, des arbres d'une vigueur effrayante s'élèvent comme des montagnes, comme des pics superbes. Et sous leurs cimes, abritant une circonférence de plus de 1000 pas, des végétaux délicats, d'une transparence vitrée et d'une ténuité microscopique, étalent leurs rameaux filiformes. L'espèce des plus hauts arbres, qui domine le front lointain des forêts et y creuse de profondes anfractuosités, est le Cyphus, immense végétal aux 1000 bras incessamment ramifiés et perdant ses derniers ramuscules dans les nuages du ciel. Sur ce globe, le Cyphus n'a rien de comparable pour l'étendue qu'un arbre marin, appelé le Tharios, qui suspend de vastes forêts sur la plaine liquide des océans. 11. Le feuillage du Cyphus est d'un orangé adouci par le velouté du limbe des feuilles. Ses fleurs sont des grappes d'un vert tendre, car on ne trouve plus sur ce sol brillant l'uniformité génomique des teintes ni dans le feuillage des arbres ni dans les tiges des herbes qui le recouvrent. Le gris, le bleu, le vert et l'orangé sont les couleurs que revêtent le plus fréquemment les feuilles des plantes. Tandis que les fleurs, larges et pompeuses, y sont toujours en opposition de coloris avec le feuillage qui les accompagne. Nous disons en opposition de coloris, quel que soit le jour qui les éclaire. Car il ne faut pas oublier qu'après le coucher de Ruliel, les couleurs des objets sur le monde starien se modifient à chaque instant, selon le mélange ou la prédominance des lumières qui rayonnent des soleils colorés présents sur l'horizon. 12. Nous traversons des bois mystérieux, où des taillis d'arbres, semblables à des coraux ou à des madrépores verts et jaunes, dressaient à hauteur d'homme des rameaux de pierre couverts de belles fleurs bleues, dures et résistantes comme des lames d'ivoire. Cette sorte de corail sylvestre nous parut être une espèce singulière d'arbre monocotylédone, dont l'épiderme secrète un enduit de chaux très épais, qui, en se durcissant à l'air, entoure le tronc et les branches comme une gaine, et donne aux fleurs la consistance, l'éclat et la dureté de la porcelaine. Et le vent, en se jouant dans les rameaux de ces arbres, y produisait des vibrations métalliques dont les accords nous suivaient d'une éolienne et vaporeuse harmonie. 13. Notre arrivée imprévue sur le bord d'une rivière y cause un tumulte étrange. Une multitude d'arbrisseaux aux feuilles vertes et luisantes s'élance comme des oiseaux, fuit dans les airs agitant branches et feuilles en guise d'ailes, et vont s'abattre sur les rives à quelque distance. Ces oiseaux-plantes nommés bramiles sont des êtres singuliers qui, avec l'organisation d'un végétal, ont la sensibilité d'un animal et la faculté de se mouvoir en agitant leurs rameaux articulés avec le tronc. Les bramiles se fixent sur le bord des eaux courantes au moyen d'un pied tuberculeux armés de racines ou de suçoirs en forme de griffes qu'ils enfoncent dans la terre humide. Leur réunion et les mouvements de leurs branchages animent mélancoliquement les rives des fleuves qu'ils habitent. 14. Désireux de nous orienter sur cette terre jusqu'alors inconnue, nous avions gravi le flanc d'une haute colline. Le sommet de cette colline se trouva être un promontoire, d'où la vue embrassait une mer immense. La mer était là, avec ses rivages où s'épanouissait à fleur d'eau la cime des Tharios, qui formait comme autant d'îlots de verdure bercés par les vagues. Combien d'idées de force, de majesté et de vie s'élevaient en nous à la vue de ces arbres colosses qui, plongeant leurs racines au fond des mers peu profondes ou le long des rivages, soulèvent au-dessus des flots, au moyen d'un tronc énorme, des rameaux puissants, capables de résister aux efforts des vagues et des tempêtes. 15. Insensiblement, les soleils s'étaient déplacés. Eragror a disparu de l'horizon et Ruliel l'a suivi quelque temps après. Altéter lui-même montrait son disque vert agrandi dans les brumes floconneuses de l'Occident. Il va nous être donné d'observer une des nuits incomplètes de stars, alors que la foule des astres éclipsés par la lumière de Ruliel se montre dans l'azur du ciel, alors que les cinq lunes ou satellites de stars apparaissent escortés d'étoiles de première grandeur. Mais ces nuits, qui ont tant de charmes mystérieux au bord des eaux et dans les forêts qui nous entourent, font briller aux cieux des magnificences que nos regards fatigués ne sauraient sonder sans se recueillir un instant. 16. Star est la sphère terrestre, le globe habité et vivant dont le nom nous a servi à désigner génétiquement le groupe d'astres où nous avons pénétré. Star, voyez figure A, est une masse planétaire de fort volume dont l'orbite occupe à peu près l'espace intermédiaire du système à égale distance d'Altéter, le soleil vert, et d'Eragror, le soleil bleu. Stars comme ces deux soleils gravitent elles-mêmes autour de Ruliel, immobile au centre de cet univers. Autour de Stars, où la Terre, se meuvent cinq petits globes, dont le plus élevé et le plus lumineux est Urias, un des quatre soleils qui sillonnent le ciel. Les quatre autres satellites, dépourvus de lumière propre, figurent autant de lunes qui reposent le regard dans ce firmament dont les splendeurs aveuglent. La première de ces lunes porte le nom de Tassule, la seconde s'appelle Le Sûr, la troisième est dite Rudard et la quatrième Hélière. Telles sont, en y comprenant les étincelants chapelets d'étoiles ardentes, les richesses de la nuit dans ce monde merveilleux. 17. Les crépuscules de stars ont une magie enchanteresse. Malgré la présence sur le plan de l'horizon d'Urias et d'Altéter, le disque de Tassule, éclairé en totalité par les rayons de Ruliel, se levait à l'orient limpide et argenté. Un peu plus haut, le Sûr présentait un phénomène étrange. Une moitié de sa surface, recevant la lumière blanche de Ruliel, avait la couleur jaune pâle de Tassule un peu nuancée d'azur, tandis que l'autre moitié, qui réfléchissait seulement les rayons d'Eragror, présentait une teinte bleuâtre crépusculaire. Rudard, au contraire, perdu au milieu des feux rouges et verts d'Urias et d'Altéter, suspend sur nos têtes son croissant luisant de couleur caméléonienne. 18. Le soleil bleu s'était déjà perdu derrière les montagnes du couchant. Le soleil rouge penche aussi vers ce point, tombeau de toutes les lumières des cieux. Pour cette terre, pour ces dieux toujours ruisselants de clarté, c'était presque la nuit, mais la nuit douce, tropicale et chatoyante. À ce moment, se lève dans l'azur de ces cieux riches un astre singulier, qui, chez les stariens, est toujours contemplé avec étonnement. Ces peuples l'appellent Hélière. Ce satellite de stars est un globe diaphane, solide et compact comme une terre de cristal, mais transparent comme l'air respirable, transparent comme l'espace où luit le jour. Dans les champs de ces cieux, où brillent comme dans un vaste écrin tant d'escarboucles, Hélière est le diamant où se jouent, se croisent et se reflètent tous les feux des soleils, des lunes et des étoiles. Nous le voyons, en s'avançant, projeter en rayons distincts, en rayons enflammés, les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les lumières des soleils, en le pénétrant ensemble tour à tour, déroulaient la fantasmagorie enflammée des couleurs réfrangibles du spectre solaire, ou faisaient onduler, du centre de l'astre vers sa circonférence, des anneaux chaudement colorés. 19. Quel pinceau pourrait rendre les différentes phases de la physionomie imprimée au jour et à la nuit, sous le ciel féerique de stars, par la révolution de ces astres et les changements qui surviennent à tout instant dans leurs situations respectives. Qui pourrait décrire surtout la fantasmagorie des jeux et des chatoiements exécutés par les disques de ces astres dans les flots de la mer, quand ils plongent dans l'onde avec la vague, tremblent à sa surface ou miroitent dans l'écume aux reflets d'opale. Non, vous dis-je, rien ne manque à la série harmonieuse des effets de lumière qui teinte cette terre et ses cieux enchantés, pas même l'antithèse, pas même l'obscurité profonde. Car s'il est vrai que les nuits obscures sont rares pour les stariens, elles arrivent néanmoins par instant, quand quelque lune attardée, ou même quelque pâle soleil à son déclin, se montre seul, voilé par une atmosphère de nuages épais. Star a donc aussi ses ténèbres. 20. Oh, la brillante et douce nuit! Le souffle d'un vent tiède nous apportait le mugissement de la mer, battant le marbre des falaises. Puis, par intervalles, d'autres sons plus distincts, qui venaient des forêts voisines, jetaient l'âme, déjà émerveillée d'un si beau spectacle, dans un abîme de rêveuse contemplation. Sur la terre de Star, la mélodie erre de tous côtés, presque aussi répandue que l'air qui rase le sol et bruit dans les herbes. Non seulement la nature y a fait naître des multitudes d'oiseaux, doués presque tous d'un gosier musical, des animaux mammifères eux-mêmes font entendre comme un cri d'amour des chants que le voyageur écoute de loin avec ravissement. S'il est des hommes dans ce monde harmonieux, ils ont dû s'arrêter quelquefois pour écouter les accords que rendent, en se balançant au souffle de la brise, les fruits d'un arbre de ces forêts que nous nommerons le Lartimore. Ces fruits, suspendus par un lien ou pédoncule long et flexible, sont formés par une noix à enveloppe d'une dureté et d'une élasticité particulières. À leur maturité, le sommet de la noix tournée vers la terre s'ouvre, ou pour mieux dire se découvre, et laisse écouler la liqueur qui la remplit. La coquille alors reste ainsi plusieurs années sans s'altérer, et les sons que rendent les groupes de ces coques de différents calibres en s'entrechoquant sont des notes harmonieuses que le vent fait gémir ou gronder selon qu'il est calme et furieux. Oh oui, s'il est des hommes sur cette terre, le Lartimore a dû leur révéler plus d'une fois les mélodies de la nature. 21. Sortons de notre rêverie somnolente et contemplative, car Ruliel qui se lève a chassé les pénombres de la terre. Le soleil blanc paraît, et bientôt nos regards, aidés de sa clarté, ont embrassé, du côté de l'Orient, les dernières limites de l'horizon. À mesure que la lumière dessinait plus distinctement les objets, de vagues frissons d'espérance et de crainte nous agitaient. Enfin, nous n'en pûmes douter. C'était bien l'aspect lointain d'une grande ville que nous découvrions tout au bout du cercle visuel. Vite, en marche, oh, courons, car il nous tarde de connaître et d'admirer le prince de la création sur ce globe splendide. 22. Malgré le désir curieux qui nous emportait, nous fûmes arrêtés dans notre course par la scène anxieuse d'un combat qui se livrait sur nos têtes. Un gracieux oiseau d'un bleu d'azur, ayant seulement le bec et le bout de l'aile doré, venait de nous apparaître. Il portait au cou un ruban blanc, signe de domesticité, et sa présence nous annonçait ainsi le voisinage des habitations, dont le Cytos, c'est le nom de l'oiseau, est un des hôtes les plus fêtés par les peuples de ce pays. Soudain, deux oiseaux, noirs et velus, porteurs d'une tête allongée, effrayante de ses larges yeux rouges de feu, se précipitent sur l'oiseau bleu, et, le saisissant chacun par l'une de ses ailes, ils le tirent en sens inverse, comme pour l'écarteler. Au cri du Cytos, un oiseau blanc de taille monstrueuse fendit les airs, et, lançant deux coups de son énorme bec sur les deux forbans, il délivra le Cytos et jeta à nos pieds ses ravisseurs expirants. J'appris depuis que les Cytos étaient des oiseaux révérés et chéris, les suppôts du bonheur, dit-on, presque des dieux lares pour les Stariens, qui les élèvent dans leur maison, soit en troupe, soit isolément, pour leur agrément d'abord et ensuite un peu par superstition. Mais les Cytos ont pour ennemis naturels et acharnés d'autres oiseaux hideux, appelés les aïoux ou oiseaux néfastes, qui en détruiraient vite l'espèce si les habitants de ces contrées n'eussent pris soin de préposer à la garde et d'instruire pour la défense des Cytos une sorte d'aigle géant, devenu le chien de chaque troupeau, et qui porte secours à ses élèves quand, par hasard, comme dans un cas semblable, l'un d'eux, s'aventurant un peu loin du toit domestique, se trouve assailli par les aïoux. 23. Que cette terre est étrange et d'aspect mobile. En ce moment, un nuage épais vint obscurcir l'image de Ruliel, le soleil blanc, et bien que ne pouvant masquer complètement l'éclat de son disque, visible encore à travers cet amas de grises vapeurs, comme une lune brillante dans la nuit d'un beau ciel, il avait néanmoins absorbé ses rayons et sa lumière pénétrante. Dans d'autres points de l'espace, les soleils rouges et bleus, dont les rayons traversaient des pans dégagés de nuages, nuançaient certaines parties du paysage et couvraient d'une teinte violette ardente les montagnes de l'horizon. Mais le nuage passa sur le front de Ruliel, et les lumières colorées virent bientôt leur ton pâlir et s'effacer. Quand les vents charrient des flocons nuageux et que les soleils de couleur sont seuls sur l'horizon, il arrive parfois que, leurs rayons s'échappant à travers les mailles, à travers les éclaircies de ce réseau nébuleux, le voyageur peut suivre du regard sur le flanc des coteaux des espaces bleus, verts ou roses, qui courent et fuient dans la direction du vent. 25. Ici, la nature animale et vivante même pourrait sembler fantaisiste dans ses productions. Nous avions déjà rencontré quelques animaux assez singuliers sur notre chemin. Mais, ayant voulu poursuivre un quadrupède d'une fourrure blanche et serrée, à notre grande surprise, il nous sembla que cet animal augmentait en grosseur à mesure qu'il fuyait devant nous. De sorte qu'au bout de quelques centaines de pas, son volume était plus que triplé. Nous accélérons notre course pour tâcher de nous emparer de ce singulier phénomène. Mais au moment où nous allions le saisir, nous le vîmes s'élever dans les airs, d'abord péniblement, ensuite avec rapidité, sans que pour cela il agitât autre chose que sa queue, dont il paraissait se servir comme de gouvernail. Il disparut, emporté par une rafale de vent, et alla s'abattre dans une forêt de cyphus aux feuilles orangées. Note. Voici ce que les naturalistes stariens disent de cet animal, qu'ils nomment le psargino. Sa peau, qui jouit d'une grande extensibilité, ne lui est adhérente qu'aux yeux, à la bouche, aux autres ouvertures naturelles et à la plante des pieds. Dans le reste de son étendue, elle n'est que juxtaposée à une autre membrane ou peau interne qui a la propriété de sécréter, à la volonté de l'animal, une matière 15 ou 20 fois plus légère que l'air. Le psargino, ainsi entouré de gaz, devient une sorte de ballon moins pesant que l'air atmosphérique. Et il se sert de cette propriété pour s'élever dans les airs et échapper à ses ennemis. Une sorte d'ouverture garnie de valvules que le psargino porte sous le ventre le débarrasse d'une partie ou de la totalité du gaz qui l'allège et lui sert à descendre à terre quand le chasseur a perdu ses traces. Fin de la note. 26. Le jour avançait et nous allions encore nous arrêter auprès d'un buisson aux feuilles d'azur pour cueillir ses fleurs noires, brillantes, parfumées et aux pétales distinctement moirés, quand nous nous apercevons que notre course nous a conduits jusqu'à l'entrée d'une bourgade, peu distante elle-même de la grande ville que nous cherchions, et qui déroulait ses immenses faubourgs dans l'éloignement. À ce moment, notre curiosité, sur le point d'être satisfaite, espère et craint de trouver l'homme de ce monde si différent du nôtre, écrasant et surnaturel de force, d'intelligence et de majesté. Nous avançons. Une petite troupe d'individus de la race starienne se présente à nous. Ils sont semblables à nous-mêmes. Ce sont bien là les mortels que nous connaissons. Là, comme partout, l'homme est l'homme. La nature jusqu'alors n'a rien produit de plus parfait. 27. Sans doute, comme organisation, l'espèce humaine, sur la terre appelée star, est semblable à nous-mêmes. Mais, quant aux forces vives de la raison, de l'esprit et du cœur, nous aurons dans la suite de nombreuses occasions d'en comparer les applications ici-bas et là-haut. 28. Impatients de pénétrer dans les entrailles de ce monde inconnu, nous nous établirons sans retard au milieu de la puissante ville qui nous était apparue dans l'éloignement. Cette ville borde de ses quais et de ses édifices les rivages d'une mer irisée et les embouchures d'un fleuve qui, à cet endroit, vient mêler ses ondes placides aux vagues soulevées d'un océan starien. Sa rade immense est couverte de vaisseaux, autour desquels jouent des Thalersis, gigantesques monstres marins que les Stariens ont domptés pour le service des bâtiments qui voguent sur la mer. Nous suivons un de ces navires arrivant de l'île d'Infressia et entrant dans le port, voile déployée, mais remorquée encore par deux Thalersis. 29. Les édifices, vus de loin, nous semblent d'une architecture bizarrement contournée. Mais notre attention est tout entière et de suite absorbée par la partie vibrante de la cité. En effet, à mesure que nous avançons, il nous est impossible de détourner nos regards des masses du peuple qui s'agitent et grouillent sur les quais ou s'engouffrent dans les rues de la grande ville. En approchant de plus près, il semble tout d'abord que ce peuple se compose de deux nations, de deux races très distinctes qui vivent ensemble et vont se répandre pêle-mêle dans le dédale des rues. La plus grande de ces deux races est belle, noble et forte dans ses deux sexes. La seconde est petite, velue et remarquable avant tout examen par ses larges oreilles repliées, tombantes et ornées de poils soyeux, surtout chez les individus du sexe féminin. La première seulement appartient à l'espèce humaine, forte et intelligente, surtout sur cette terre, race ici supérieure et dominante. La seconde partie de la population n'est autre chose qu'une espèce inférieure, ou, pour mieux dire, une nation d'animaux perfectibles, doués plus que tous les autres d'intelligence et d'habileté. Mais de plus, ayant comme l'être humain l'usage de mains agissantes et la faculté d'exprimer leurs idées, l'usage de la parole. Ce sont les repleux, soumis à l'homme qui règne et commande et réduit par lui en domesticité. La race humaine est sans affinité avec la race des repleux. Elle est à celle-ci ce que le cheval est à l'âne, et leur accouplement même ne produit que des métisses incapables d'engendrer. Les Stariens possèdent, selon leurs moyens et leurs besoins personnels, un ou plusieurs repleux. Ceux-ci sont élevés et instruits pour différents emplois, mais surtout pour le service particulier de la maison. La taille des repleux est de plus d'un mètre. Ils marchent debout, sont agiles et robustes. Par rapport à la race humaine, leurs pieds et leurs mains sont seulement un peu trop larges. Leur vie, enfin, est de moitié plus courte que celle de l'homme. 30. Des chevaux et des voitures sillonnent les rues. Sur le fleuve ou dans le golfe, des bateaux et des gondoles courent, traînés par des Thalersis, cétacés nageant à fleur d'eau avec une vitesse inexprimable. 31. Les femmes stariennes sont extrêmement remarquables, non seulement par leur beauté, mais encore par certaines grâces plus particulièrement estimées chez les peuples de Star, c'est-à-dire par leur noblesse, leur décence et leur honnêteté. Les hommes brillent entre tous par leur force, leur franchise et leur activité. Forts, francs et actifs, voilà les Stariens. 32. Telle est au premier coup d'œil une cité starienne. Sous ce ciel magique, au milieu de cette nature superbe de variété, d'expansion et de luxure, elle se présente à nous avec ses monuments, se mirant dans les flots d'une mer diaphane qui réfléchit à la fois ses palais, ses vaisseaux et les feux omnicolores de ses astres. 33. Les peuples stariens sont monogames. Les purs sentiments de la famille, qui règnent chez eux dans toute leur sainteté, répandent sur leur vie d'intérieur un parfum de douce ivresse et de chaste mais constante quiétude. Ne vous semble-t-il pas déjà que sur cette terre magnifique, les besoins du cœur, devenus irrésistibles d'entraînement et d'abandon, doivent, sous une nature plus puissante, devoir être plus largement satisfait? Il n'y a d'ailleurs ni valet ni domestique chez les Stariens. Ces services dégradants sont laissés au repos, instruits presque tous à exécuter les basses fonctions du ménage. 34. Le cytos est avec le repleu l'hôte indispensable de la maison. Ces oiseaux bleus familiers, gouvernés, quand ils sont réunis en troupe, par un oiseau blanc de haute taille, servent aux stariens à débarrasser leur maison des mouches et autres insectes incommodes. Le cytos est occupé une partie de la journée à faire la chasse aux insectes. Mais, pourvu qu'il y soit excité, il sait faire retentir la demeure de l'homme de chant bas mais suave, dont chaque variation est toute une mélodie. Ces oiseaux bleus, au bec et aux ailes d'or, se reproduisent difficilement, mais jouissent d'une longévité remarquable. Ils font partie de l'habitation, et ils ont été élevés et meurent presque toujours quand on veut les transporter dans un autre lieu. Une maison starienne dépossédée de sa famille de cytos serait réputée maudite et désertée par ses habitants. Un cytos, isolé de ses semblables, qui a été élevé avec un enfant ou a reçu longtemps les soins ou les caresses d'un maître, devient pour le reste de la vie son animal familier et meurt lorsque la mort de la personne chérie ou son absence prolongée viennent l'en séparer. Quand un cytos s'est inféodé sympathiquement à l'existence d'un homme, il peut alors quitter le toit domestique et voyager avec lui. Mais de plus, il sait, selon les circonstances, plaindre, consoler ou réjouir par de touchantes mélodies son maître qui trouve toujours ses chants en harmonie avec l'état de son âme. On assure même que l'oiseau, devenu sympathique, peut éprouver, pour une personne aimée par son maître, des sentiments de bienveillance et de tendresse, et qu'il devient bientôt l'écho harmonieux des amours chastes de deux amants. 35. La domesticité n'est pas imposée par les stariens aux métis qui résultent de l'accouplement d'un homme avec un repleu. Ces individus, engendrés de relations immondes, sont plus rares aujourd'hui chez les stariens. Ils sont désignés sous le nom de cétratites. Presque tous ont été conçus et portés par des repleuses. Une femme starienne qui se serait oubliée à ce point serait maudite et repoussée de tous. Les cétratites ne peuvent avoir d'enfants. La nature les a rendus inféconds. Ils traînent en général, dans les bas-fonds des villes populeuses, une existence misérable et le plus souvent criminelle. Nous aurons à revenir sur cette race bâtarde, dont quelques individus furent célèbres dans l'histoire des peuples stariens. 36. En parcourant la ville et les environs, l'étranger qui voit jaillir de tous côtés des fontaines d'eau thermale presque bouillantes est émerveillé de la bienfaisance de ce sol si bien disposé pour rendre la vie de l'homme agréable et facile. Si nous remontons à l'Orient les faubourgs de la ville, ici vont s'offrir à nos regards de splendides habitations entourées de jardins où feuilles et fleurs revêtent un admirable coloris. Aux arbres des vergers pendent, selon les saisons, des fruits brillants, superbes, savoureux de parfum et de goût, et à la chair sucrée, glacée et fondante. 37. Certains végétaux de ces heureux climats ne germent et ne fructifient que lorsqu'arrive le printemps, et l'été du soleil dont la chaleur et la lumière ont sur eux une influence vivifiante. Ruliel, le soleil blanc, règle ici pour la plus grande part les climats, les saisons et la végétation. Tous les grands végétaux suivent annuellement dans leur transformation sa progression ascendante ou descendante sur son écliptique. Urias, seulement, fait mûrir dans les jardins quelques plantes portant des fruits crémeux d'une exquise saveur. Ces fruits, qui croissent très vite, s'altèrent promptement. Mais la plante fructifie plusieurs fois l'an, car la révolution d'Urias autour de Star se fait en moins de 60 jours. L'approche des ragror, le soleil bleu, détermine la maturité de certaines plantes utiles aux arts et à l'industrie. Enfin, la chaleur d'Altéter, le soleil vert, fait naître dans le suc des végétaux sensibles à son influence des parfums chers aux amis des jouissances sensuelles. L'émanation de ces parfums, en frappant voluptueusement l'odorat, a la propriété de jeter l'âme dans un demi-assoupissement, accompagné des sensations générales les plus délicieuses et de rêveries d'un charme indicible. Que dire encore des jardins des Stariens, si ce n'est que la réunion et la marche de tous ces astres dans les plaines du ciel font sortir en tout temps de la terre le parterre le plus joli, le plus varié, le plus chargé de fins arômes par toutes ces fleurs élégantes de coloris, de dessins et de gracieux détails. 38. C'est principalement dans les chaudes vallées et sur le bord des eaux courantes que les Stariens savent faire croître les plus grandes et les plus belles celsinores, assurément les plus vastes corolles de ce monde si richement diaprées. Les celsinores sont les fleurs gigantesques d'une plante qui serpente sur le sol et le couvre au loin de ses rameaux aux feuilles finement découpées. Ces fleurs, ornées des couleurs les plus tendres, mesurent sur la terre une longueur de plus de 2 mètres. Elles ont la forme et la dimension d'un ample berceau. Les celsinores sont consacrées à l'hymen par un usage antique qui en fait la couche nuptiale des jeunes époux. Ceux-ci, dans ce brillant sanctuaire de l'amour, ont coutume de passer la première nuit de leurs noces sur un lit d'étamines moelleuses et parfumées. Fin du livre premier.